BW. Vue d'Allemagne.
Bonjour, bonsoir, où que vous soyez dans le monde entier à l'écoute de ce magazine, le monde qui aura les yeux rivés sur l'Allemagne, si ce n'est déjà fait, à l'approche des législatives anticipées du 23 février, quel que soit le gouvernement aux commandes de la première puissance économique européenne, il sera confronté à des défis majeurs en matière de politique étrangère, on le verra. En seconde partie d'émission, on fera un tour en forêt dans le parc national du Mont-Rainier sur la côte pacifique des États-Unis. Au micro, Relu Koubakin, Willkommen, bienvenue. C'est le défi de la prochaine coalition gouvernementale en Allemagne. Il s'appelle Donald Trump. Le 7 janvier, il avait demandé aux pays membres de l'OTAN, dont l'Allemagne, d'augmenter leur budget de défense à 5% de leur PIB. Deux jours plus tôt, Ken Weinstein, le conseiller en politique étrangère du président américain, donnait déjà le ton ainsi Deutschlandfunk. Trump attend de l'Allemagne qu'elle comprenne que sa sécurité ne dépend que d'elle-même, disait le conseiller sur la radio publique allemande. Ce que confirme aussi Thorsten Benner, directeur du Global Public Policy Institute de Berlin.
Il est désormais clair que l'ancienne formule selon laquelle nous pouvons compter sur les États-Unis pour notre sécurité n'est plus valable et que Trump n'était pas l'exception à la règle. Les quatre dernières années de Biden ont été les derniers soubresauts du vieux transatlantisme et nous devons nous préparer à un monde où nous devrons assumer beaucoup plus notre propre sécurité en Europe et ce, dans une situation où nous sommes en guerre sur le continent.
Et cette guerre, c'est la guerre en Ukraine. Donald Trump a récemment répété qu'il souhaitait certainement réduire le soutien à l'Ukraine et a appelé à un cessez-le-feu immédiat. L'Allemagne est aux côtés de l'Ukraine, quel que soit le résultat de l'élection présidentielle aux États-Unis, disait avant la victoire de Trump la chef de la diplomatie allemande. Thorsten Benner entrevoit une solution à la guerre en Ukraine qui ne mettrait pas de côté l'Allemagne et le reste de l'Europe.
L'Europe pourrait-elle prendre le relais de ce que les États-Unis ont fait jusqu'à présent en Ukraine? Militairement, non, mais financièrement, oui. Et le deal avec Trump pourrait en effet ressembler à ceci. Nous payons pour que vous continuiez à fournir du matériel militaire à l'Ukraine, mais à nos frais, parce que c'est dans notre propre intérêt.
Selon Thorsten Benner, l'Allemagne doit alors beaucoup contribuer.
DW.
Le deuxième grand chantier de l'Allemagne en matière de politique étrangère est le Proche-Orient. La ministre allemande des Affaires étrangères s'est rendue en Syrie pour rencontrer les nouvelles autorités après la chute de Bachar al-Assad. Si nous ne sommes pas là, d'autres combleront ces lacunes, avait justifié Annalena Baerbock cette semaine. Sa collègue de l'intérieur Nancy Faeser envisage tout à fait d'accorder la possibilité aux réfugiés syriens vivant en Allemagne de se rendre en Syrie sans que cela n'affecte leur statut. 1 million de Syriens vivent en Allemagne. Enfin, Berlin plaide pour un assouplissement des sanctions de l'UE contre la Syrie. Mais la situation en Syrie n'est que le dernier événement important de la région. Après les attaques terroristes du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et les représailles israéliennes dans la bande de Gaza et contre le Hezbollah au sud Liban, le gouvernement fédéral a tenté de faire le grand écart. D'une part, il a défendu la sécurité d'Israël comme raison d'État. D'autre part, la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, s'est engagée lors de nombreux voyages dans la région à défendre les intérêts des Palestiniens et à promouvoir la désescalade. Le grand écart n'était pas parfait, mais il aurait été difficile de le faire autrement que ce qui a été fait jusqu'à présent. Fait remarquer Hans Jakob Schindler, spécialiste du Proche-Orient au sein de l'ONG Counter-Extremism Project, qui est catégorique. Aucune position allemande ou européenne plus forte ne se développera pour influencer ce conflit d'une manière ou d'une autre. Autre sujet où la prochaine coalition en Allemagne est attendue, la Chine, considérée comme un partenaire, un concurrent et un rival systémique. La chef de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, voulait avant tout se laisser guider par des valeurs. Elle a évoqué ouvertement les violations des droits de l'homme avec des partenaires commerciaux importants comme la Chine. Cela lui a valu en 2023, lors d'une conférence de presse avec le ministre chinois des Affaires étrangères de l'époque, Qin Gang, le reproche suivant. Ce dont la Chine a le moins besoin, c'est d'un donneur de leçons de l'Occident. Il existe désormais un large consensus au sein de la classe politique allemande sur le fait que l'Allemagne doit jouer un rôle plus actif en matière de politique étrangère et de sécurité, mais la population ne semble pas adhérer sans réserve à cette idée. Dans un sondage commandé par la fondation Koeba peu après l'élection américaine et la rupture de la coalition gouvernementale en Allemagne, 73% des personnes interrogées se sont prononcées en faveur d'un investissement accru de l'Allemagne dans la sécurité européenne, mais 58% s'opposaient à ce que l'Allemagne assume un rôle de leader occidental si les États-Unis se retiraient sur la scène internationale. Il semble qu'il ne sera pas si facile pour un nouveau gouvernement fédéral, quel que soit le chancelier, de convaincre les Allemands d'assumer davantage de responsabilités en matière de politique étrangère. Merci à Christophe Hasselbach pour les sons. Vous écoutez le magazine Vue d'Allemagne, place à la seconde partie. La côte pacifique des États-Unis abrite des forêts majestueuses peuplées de séquoias et de cèdres rouges colossaux, rivalisant en taille avec les gratte-ciels urbains. Depuis les années 1990, une législation protège ces arbres millénaires et leur écosystème unique. Cependant, dans des États comme l'Oregon et Washington, l'exploitation d'arbres centenaires demeure une source de revenus importante malgré leur valeur écologique indéniable. Ces régions maintiennent un équilibre délicat entre préservation et économie forestière, cette dernière finançant des services essentiels comme l'éducation et la santé dans des communautés qui prospèrent à l'ombre de ces géants végétaux. Tout de suite, le reportage d'Alexis Gacon.
Aujourd'hui, on se retrouve dans la forêt du parc national du Mont Rainier. Au-dessus de nous, il y a des cèdres rouges qui font 60 mètres de haut ou plus, des pruches de l'ouest, c'est un immense conifère, un sapin de Noël sous stéroïdes un petit peu, pour vous donner une idée. Il y a des racines énormes, c'est pas facile de se promener.
C'est un peu bancal par ici, tu devrais plutôt passer par là.
Et je suis pas tout seul ici, je suis avec Patrick Mazza. Patrick, il a 72 ans et il défend les forêts anciennes depuis plus de 40 ans.
C'est le genre de lieu qui m'a toujours amené à ce coin du pays.
Vous m'avez dit, vous êtes un Cascadien. What is a Cascadian, according to you?
Cascadia is a bioregion.
Cascadia, c'est une biorégion qui se définit par les eaux des cascades, les interactions entre le Pacifique Nord et le passage qui multiplie les couches d'humidité sur les montagnes. Les montagnes récoltent toute cette moisteur. C'est pour ça qu'on a ces immenses forêts épaisses avec des arbres géants parce qu'il y a des précipitations abondantes. On parle de forêt cathédrale parce qu'elles ont des aires d'église façonnées par la terre-mère.
Alors, la forêt dans laquelle on se promène, elle est protégée, elle fait partie d'un parc national, mais pour que la plupart de ces forêts millénaires le soient, ça a été un long chemin, parce qu'ici, il y a des villes qui tournent uniquement autour de l'industrie du bois. Leurs habitants ont donc mis beaucoup de temps avant de réaliser l'importance écologique de ces arbres, avant sa valeur pécuniaire. En fait, l'industrie coupait des arbres millénaires sans se poser de questions pendant très longtemps, mais à partir des années 70, des associations environnementales vont commencer à les protéger, même avec leur corps, à s'enchaîner aux arbres pour empêcher la vente de parcelles d'arbres anciens. Mais ça ne suffit pas. L'industrie, à l'époque, continue de gagner ses procès et parvient à déloger les environnementalistes à chaque fois.
Un jour, une femme est venue vers moi et a chanté l'histoire des forêts anciennes et ça m'a éveillé sur les batailles qui commençaient à naître au début des années 80 pour sauver ces forêts magnifiques, ces arbres qui ont des centaines d'années.
Les batailles dont Patrick parle, on les appelle ici les Timber Wars. À partir des années 80, les activistes dont je vous ai parlé vont changer de tactique, légalement en tout cas. En fait, ils se sont rendus compte que c'était plus facile de faire protéger une espèce qu'un écosystème. Alors ils identifient une espèce en particulier qu'ils vont essayer de protéger. Ils choisissent la chouette tachetée du Nord, une petite chouette qui a besoin des forêts anciennes pour survivre et qui a été décimée justement par les coupes d'arbres. Elle va devenir un symbole de la lutte entre l'industrie et l'environnement. Et lorsqu'elle a été ajoutée comme espèce en danger d'extinction, des milliers de kilomètres de forêts sont devenus protégés. Donc des dizaines de villages ont perdu leur principal gagne-pain. Ce qui est particulier ici, c'est que le Forest Service américain agit de concert avec les industries privées d'exploitation forestière. Donc le Forest Service, c'est l'organisme qui gère les forêts nationales, les forêts publiques. Dans les années 60, on coupait plus d'arbres sur les terres publiques que dans les forêts privées. Alors avant de revenir me promener avec Patrick, j'ai parlé quelques minutes avec Jim Furnish, un ancien du Forest Service, devenu écologiste depuis. Il gérait la forêt la plus productive des États-Unis, celle de l'Oregon.
À l'époque, l'atmosphère était bouillante. Les émeutes entre les compagnies forestières et les activistes, avec le service public de gestion forestière pris en sandwich entre les deux, c'est difficile à décrire avec des mots. La tension était partout.
Les forêts millénaires sont désormais bien protégées, mais d'autres, les forêts héritées, qui ont été coupées qu'une fois depuis les années 40, ne le sont pas, alors que leur valeur écologique est inestimable. Ce que Patrick fait avec son groupe d'activistes du troisième âge, les Troublemakers, c'est qu'il empêche les ventes de parcelles publiques de forêts héritées en allant supprimer tous les petits repères, des petits rubans qui délimitent la surface des terrains à vendre, ce qui vient suspendre les ventes. C'est ce qu'il vient de faire d'ailleurs. Et avec son équipe, ils ont déjà réussi à en empêcher plusieurs.
It stops.
Si tu les enlèves, ça bloque les ventes. Ils utilisent l'argent des ventes d'arbres pour financer les écoles. Je trouve que c'est bien, mais pas au prix des forêts héritées qui n'ont été coupées qu'une seule fois.
On a entendu le point de vue de Patrick et de Jim, devenus donc environnementalistes. Mais l'industrie forestière, qu'elle soit privée ou publique, estime que ces forêts héritées ont surtout une valeur monétaire. Dans le Washington State, une récente vente de sapins de Douglas a été estimée à plus de 3 millions de dollars. On va essayer d'en parler quelques minutes avec le DNR, le département des ressources naturelles de l'État de Washington, le DNR qui a vu des ventes suspendues par les actions des troublemakers. On appelle donc Ryan Roderick, porte-parole du département des ressources naturelles.
On doit garder à l'esprit que ces coupes rapportent de l'argent à l'éducation publique. C'est ce que la loi nous demande. Et au sujet des gens qui enlèvent les repères de vente de parcelles, c'est malencontreux. Qu'ils choisissent de vandaliser nos forêts de cette manière, ce sont des ressources qui rapportent de l'argent aux citoyens.
Avec l'élection de Donald Trump, les forêts anciennes vont être à nouveau menacées à grande échelle. Lors de son premier mandat, il avait voulu ouvrir à l'exploitation à nouveau 2,8 millions d'hectares de forêts nationales. Patrick et ses troublemakers n'ont donc pas fini d'arpenter la forêt. Alexis Gacon pour la Deutsche Welle.
Fin de cette édition de Vue d'Allemagne, mais ça continue sur le podcast de l'émission, à écouter ou réécouter sur la plateforme de votre choix. La semaine prochaine, vous retrouverez Anne Letouzé. Tchuss!